Vous devinez sans doute ce que je vais vous dire tout d'abord, quoique ce ne soit pas une formule, mais la réalité de nos cœurs, à savoir notre plaisir, notre bonheur d'être de retour à Darnay, et d'autant plus que nous gardons de notre précédent et premier séjour ici, je crois il y a 2 ans, pratiquement tout rond, ou à peu de choses près, un si bon souvenir. Donc nous sommes reconnaissants de ce que Dieu ait ouvert cette porte une fois encore pour nous pencher sur un sujet très délicat. Un thème qui est, dont l'itinéraire, disons-le ainsi, sera parsemé de pièges, de mines antipersonnelles, et qui peuvent, si l'enseignement était problématique, sauter subitement, même dans nos vies, parfois dans quelques années. Hein, on ne réalise pas toujours la portée de l'enseignement biblique, soit en bénédiction, soit hélas aussi en choses bien douloureuses. Donc, je vais être dogmatique et clair et affirmatif et plein de certitude dans certains domaines, mais dans d'autres d'une éminente prudence à cause de la complexité du sujet pour nous. Rasmotte ici-bas, même si nous sommes heureux d'être assis avec le Christ glorifié dans les lieux célestes par la foi. Comment va se présenter le déroulement de ces 4 études? Nous aurons aujourd'hui donc, en cette fin d'après-midi et ce soir, 2 études d'ordre plus général, où nous allons répondre à quelques grandes questions, oui, donner des éléments de base. Ce sera essentiellement une introduction générale pour pouvoir réserver les 2 études de demain, peut-être partiellement ce soir même, nous verrons, à la pédagogie divine, à l'endroit du croyant. Donc, le langage de la souffrance dans la vie du croyant. Je ne vous cache pas que, durant ces derniers jours que nous avons passés dans les Vosges, mes côtés alsaciens, je me suis penché longuement, de longues heures, tout à nouveau sur ce grand sujet. Et mon plus grand embarras, comme souvent, a été de discerner ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait partager, ce qui était prioritaire. Et je vous encourage et je vous remercie de prier afin que, au fil de notre itinéraire ensemble, je puisse comprendre ce qui n'est pas essentiel à souligner pour que nous ne manquions pas d'aborder les éléments les plus importants sur notre sujet. Enfin, soulignons-le, nous avons utilisé il y a un instant, aussi bien dans l'annonce qui vous a été faite, que dans les prières, le terme souffrance. Le terme souffrance, c'est ce qu'on appelle un générique. C'est un mot fourre-tout. Et je ne l'utilise pas, ce terme fourre-tout, dans un sens péjoratif, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que le programme de la souffrance comprend une variété quasi insondable de situations dans nos vies. Nous avons évoqué essentiellement dans la prière tout à l'heure une situation de santé avec sa dimension physique toute première, mais vous savez que dans le sillage immédiat de nos problèmes de santé, il n'y a pas que l'aspect physique, il y a tout l'aspect moral, spirituel, toute la cascade d'autres problèmes que cela engendre. Et ce n'est encore qu'un aspect de ces vastes souffrances que nous pouvons connaître ici-bas. Voilà, alors je n'en dis pas plus en préalable à notre première étude, et je vous encourage à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Job. Ça ne veut pas dire que nous allons essentiellement nous arrêter à la personne de Job, mais parce que nous puisons dans ce livre des passages très très riches, très intéressants. Le premier étant dans Job au chapitre 5, et dans les versets 6 et 7, Job 5, 6 et 7, c'est l'aîné de ceux que l'on appelle les amis de Job, le plus âgé des trois, celui qui ouvre la... Oh, non pas la consolation et l'encouragement, mais le réquisitoire qui va plonger Job plus profondément dans l'abîme. Eliphaz, qui est dans son premier des trois discours qu'il fera, discours de plus en plus incisif, dur, brutaux, calomniateur, n'hésitons pas à utiliser le mot, on n'en est encore qu'au début, et il y a dans les propos d'Eliphaz, comme dans ceux de ses compagnons, des perles, des choses très justes. Le problème, c'est que ça ne colle pas, nous le redirons, avec la situation de Job. Il y a des généralités excessives, alors des mines antipersonnelles, il y en a en quantité dans le livre de Job. Mais ici, donc, simplement un constat, le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Je ne vais pas commenter cette déclaration maintenant. Vous remarquez le tour assez poétique, l'usage de l'image qui est propre au livre de Job, puisque au-delà des deux premiers chapitres qui sont écrits en prose, il faut savoir que la quasi-totalité du livre, sauf les tout derniers versets qui en sont la conclusion, sont écrits en poésie. Et c'est ce qui, parfois, disons-le, rend la compréhension de certains passages un peu plus délicate. Maintenant, attention, ce n'est pas parce que ces chapitres 3 à 42, presque à la fin, sont écrits en poésie, qu'ils appartiennent simplement à de la mythologie, que ce soit de l'invention, que cela appartienne simplement à un art, quelqu'un qui s'est dit « je vais composer quelque chose sur la souffrance ». Il est bien évident que le style poétique n'empêche pas le dialogue, le partage, et qu'il y a là des vérités qui s'inscrivent dans une réalité, dans une situation concrète. Le Nouveau Testament utilise Job comme référence de manière très claire. Je pense à l'épître de Jacques, par exemple, pour évoquer sa constance, son endurance. D'autres versions utilisent le terme patience dans sa situation de souffrance. Donc, soyons bien clairs, hein, étant donné qu'on peut lire parfois des ouvrages commentaires de ce livre de Job qui ne voit qu'une simple construction littéraire au même titre que je peux écrire un jour un poème sur tel ou tel thème qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Nous sommes en face d'une histoire qui s'est passée, qui s'est déroulée dans l'histoire passée. Rien ne nous autorise dans les Écritures à émettre des doutes à cet égard. Si nous commençons à douter de cette manière d'un texte de l'Écriture, il est évident qu'après, nous pouvons remettre toutes les Écritures en question. Hein? Donc, je tenais, bien entendu, à le souligner. Nous allons prendre un second passage dans Job au chapitre 19. Job au chapitre 19, à partir du verset 13, parce que c'est un court passage jusqu'au verset 20, dans lequel Job, qui est vraiment là-haut, il entre dans le paroxysme de ses souffrances par rapport à l'accablement, à l'acharnement dont il est l'objet de la part de ses prétendus amis. Et il explique en peu de mots exactement la situation dans laquelle il baigne. Et c'est assez terrifiant. Je lis donc au verset 13, « Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme, ou mon haleine est repoussante à ma femme. Il semble qu'on puisse plutôt même comprendre les expressions utilisées au sens littéral, plutôt même qu'au sens figuré, ce qui correspond d'ailleurs à son état de santé. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ils jasent, ils déblatèrent, ils se moquent de moi. Verset 19. Ce que j'avais pour confident, les hommes de mon secret, littéralement, m'ont en horreur. Ce que j'aimais sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, faites-moi grâce, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Et alors vous avez un texte extraordinaire ensuite qui qui est un désir intense, n'est-ce pas? Il vaut la peine de le dire. Je voudrais que mes paroles soient gravées, qu'elles soient écrites dans un livre ou sur une tablette. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Vous voyez, ce Dieu qui est impressionnant dans son silence, dans le livre de Job. Dans le livre de Job, Dieu se tait pendant longtemps. Mais nous avons ici un texte qui nous indique combien Dieu portait une intense attention au moindre des propos de son serviteur Job, puisque ce soupir, ce désir intense que nous venons de lire dans les versets 23-24 a été accompli, puisque nous sommes en train de vivre au mois de mai 2006, un week-end, avec le texte. Vous voyez la sollicitude de Dieu dans son silence, qui a entendu ce soupir profond monté du cœur de Job, et qui, dans sa puissance infinie, a fait en sorte que ces textes qui remontent de l'époque à l'époque des patriarches, il se pourrait même que ces textes appartiennent et que l'histoire de Job appartienne à l'époque d'Abraham, c'est-à-dire peut-être jusqu'à 2000 ans avant Jésus-Christ, vous vous rendez compte, le temps qui a passé. Eh bien, Dieu a fait en sorte que ce livre vienne jusqu'à nous, parce qu'il avait un message à nous apporter, et que, en quelque sorte, Dieu nous parle en même temps de la part de Job, comme nous aurons l'occasion de le voir. Et puis vous avez ensuite cette envolée, cette certitude, moi qui me bouleverse, étant donné que, à l'époque des patriarches, la révélation de Dieu, la révélation du salut, la révélation de tout ce qui concerne l'au-delà, était tellement petite, tellement limitée. Il y avait tant de zones de profonde obscurité. Et pourtant, au sein de cette obscurité, puisqu'il y a une révélation progressive, hein, au fur et à mesure qu'on approche de la venue de Jésus-Christ, nous avons le privilège extraordinaire d'avoir une révélation terminée, n'est-ce pas, avec nos 66 livres. Mais pensez à la situation de Job, quand il évoque la mort et l'au-delà. On se rend compte que il lui manque des éléments absolument essentiels pour pouvoir s'appuyer sur eux, n'est-ce pas? Dans nos souffrances, nous disons, mais Seigneur, c'est pour un temps, bientôt je serai avec toi, et puis tu me donnes des promesses que je peux lire et relire et réciter, méditer, mémoriser. Mais dans le peu de connaissances que Job avait dans ce domaine, vous avez ce verset 25, mais je sais que mon rédempteur, mon Goël, un des grands termes de l'Ancien Testament concernant à la fois la rédemption et le jugement, d'ailleurs il va dans les deux directions, mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme ou mon cœur, mes reins littéralement, le siège des sentiments profonds, intimes, languit d'attente au-dedans de moi. Quel beau texte, quel beau texte, et quelle belle réalité derrière. Voilà, nous venons d'entrer dans notre sujet avec cette histoire terriblement dramatique. Et je le dis en ayant le souci de ne pas exagérer. Mais elle est terriblement dramatique. Et on peut se demander jusqu'à quel point Job, en dehors de notre Sauveur et Seigneur, n'a pas été parmi les personnages, sinon le personnage, qui a connu les souffrances les plus intenses qu'on puisse connaître sur cette terre, en tant que personne. Nous n'en prenons pas toujours la mesure, parce que le livre de Job n'est pas un livre facile à lire, ce n'est pas un livre qu'on aborde aisément dans les premières années de vie avec Jésus-Christ, et on en prend progressivement, avec le temps, avec les années, avec les propres expériences que l'on vit personnellement, on en prend peu à peu toute la mesure. Et moi je suis bouleversé de voir que, au fur et à mesure que j'avance avec Christ, mon regard sur le livre de Job évolue sensiblement, c'est-à-dire que je prends beaucoup plus conscience que jamais auparavant du drame, de l'ampleur du drame qui a été celui de Job dans sa vie et pendant un certain temps. Nous ne savons pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré quand même un certain temps, manifestement. Je vais faire comme il y a 2 ans, parce que c'est ma pédagogie personnelle. Je vais ici et là vous partager avec vous un certain nombre de citations issues de mes lectures, des textes qui m'ont parlé. Je vous donnerai aussi des références de 2 ouvrages plus tard, parce que d'autres ont écrit des choses tellement, tellement intéressantes. Vous savez, le pire côtoie le meilleur dans notre littérature évangélique quand il est question de la souffrance. Je dis bien le pire côtoie le meilleur. Et j'ai sélectionné un court passage du livre « À la découverte de Dieu » de Larry Crabb. On me posait aujourd'hui la question à savoir ce que je pensais de Larry Crabb dans des domaines précis. Et j'ai simplement souligné que dans la jungle des livres évangéliques associés à une approche de type psychologique, les livres de Larry Crabb m'apparaissent personnellement comme les plus solides. Dans ce sens que une des grandes modes et un des grands pièges dans lesquels bien des écrivains ayant une formation psy sont tombés a été celui de vouloir absolument couler les textes bibliques dans le moule de la psychologie. Et ça, c'est éminemment dangereux. Il ne s'agit pas de partir de l'expérience pour aller vers la Bible. On part toujours des Écritures pour aller vers les situations, vers l'expérience. Larry Crabb fait l'inverse. Et il le dit. Il l'exprime clairement dans un des tout premiers livres traduits en français. Il montre patte blanche pour qu'on comprenne bien sa méthode. Et il souligne le fait que son souci est de partir des Écritures pour aller vers tous les mécanismes humains dans quantité de domaines. Et il aborde une quantité de sujets. Ici, il est question de la découverte de Dieu. Et c'est un livre extrêmement important à une époque où, dans notre milieu évangélique, nous aurons l'occasion d'y revenir, on est beaucoup plus centré sur l'homme que centré sur Dieu. Ça, c'est un des grands problèmes de notre temps, voyez. Alors, ça ne veut pas dire que tout est garanti pur sucre 100%. Larry Crabb est comme Maurice Decker, en tout cas, dans ce domaine. Il a beaucoup plus de talent que moi, mais je ne garantis pas que tout ce que j'écris n'est pas révisable. Pourquoi ? Ben parce que nous sommes en constant apprentissage dans notre vie avec Christ, et que si les colonnes de la foi chrétienne, nos certitudes fondamentales, elles, ne peuvent pas être touchées, elles vont s'approfondissant au fil de notre marche avec Christ, il est quantité de domaines où nous nous corrigeons, parce que nous sommes en face de grands mystères, n'est-ce pas, quand nous évoquons la personne de Dieu, ce qu'on appelle la Trinité et tant d'autres grands sujets, nous nous rendons compte que nous avons continuellement beaucoup de choses à apprendre et à rectifier, n'est-ce pas? Donc c'est vrai qu'il y a des domaines, même dans les ouvrages de Larry Crabb, où je ne partage pas forcément ses approches. Il a aussi des livres qui sont plus compliqués que d'autres, parce qu'il atteint des différents niveaux chez ses lecteurs, n'est-ce pas? Mais disons qu'il écrit des choses très intéressantes. Et ici, j'ai retenu en introduction cette question, en quelque sorte, ou ces questions. Rien n'est plus facilement tenu pour acquis qu'une foi qui n'est jamais mise à l'épreuve. Tant que les choses vont comme nous le voulons, nous continuons à placer en Dieu une confiance qui paraît forte et saine. Nous supposons que tout va bien sur le plan spirituel. Mais que se passe-t-il lorsque notre confiance est brusquement ébranlée? Comment réagissons-nous lorsque les vicissitudes de la vie nous écrasent tout à coup avec une force inouïe? Ça, c'est Job, hein? Lorsque des tensions qui semblent insurmontables viennent à sombrir des relations vitales, ça c'est encore Job. Lorsque des problèmes de santé ou d'emploi nous isolent de tous, sauf de Dieu, et que celui-ci refuse de se manifester. C'est une question. Et c'est une question qu'il importe que tout authentique disciple de Jésus-Christ se pose. Et qu'il n'attende pas d'être dans la situation évoquée ou dans une des situations évoquées pour se les poser. Il faut que nous évitions au maximum d'être pris à contre-pied. Et lorsque l'enseignement des Écritures est fallacieux, déséquilibré, va dans le sens de certaines modes, hélas, on anesthésie le croyant et il va être complètement désarçonné parce que pris à contre-pied par des réalités qui sont dans les Écritures et dans la vie et qui sont absolument incontournables, n'est-ce pas? Alors, si on résume cette histoire dramatique de Job, nous nous souvenons tout d'abord que le début du livre nous présente un homme heureux. Un homme riche. Nous n'avons pas besoin forcément d'associer heureux et riche, mais chez lui c'est comme ça. Il est heureux, il est riche, il est à la tête d'une grande famille de 10 enfants. Il est estimé de tous. Il semble être, d'après ce qu'il dit, un membre influent et honoré du conseil des anciens de sa cité. Il est une personnalité donc influente. Et surtout, il y a là, dans le début de son histoire, une emphase très forte sur son intégrité. C'est un homme intègre, droit, intègre, c'est-à-dire que son cœur est entier pour Dieu. Le terme latin, integer, en quelque sorte prononcé à la française, donne l'idée de ne pas avoir deux facettes, le personnage et la personne. C'est d'être tout entier, sur le plateau comme dans les coulisses. N'est-ce pas ? Tout entier pour le Seigneur. C'est le refus d'être l'homme divisé, l'homme au cœur partagé. C'est le fait d'avoir tout mis sur l'autel et par conséquent de vivre une vie transparente, une vie dans la lumière. Intègre et droit, ce qui va d'ailleurs avec l'intégrité et rectitude morale, il était honnête en affaires, c'était un incorruptible. Alors, quand on est riche, c'est un aspect qui n'est pas sans importance. Parce que vous savez combien à la fois la puissance et le pouvoir, la richesse, sont hélas trop souvent des facteurs de développement de la corruption. Donc, c'est avec ça que tout commence. Hein. C'est là-dessus qu'il va d'ailleurs être attaqué, en quelque sorte, par la puissance des ténèbres. Et subitement, donc, l'orage, et quel orage, fond sur lui. Les épreuves s'abattent en rafales successives. Et quand je dis rafale, avec très peu de temps, parfois presque, une simultanéité, dans ce sens que les serviteurs se succèdent les uns après les autres. À peine un a-t-il fait sa déclaration qu'un autre se précipite dans la pièce pour continuer à assombrir le tableau. C'est impressionnant. Des drames engendré par la méchanceté humaine qui alterne avec des catastrophes naturelles, caprices, météo, etc. Mais là aussi, vous avez les deux. Hein. Il y a à la fois les éléments naturels qui se déchaînent, mais aussi la méchanceté du cœur humain qui se déchaîne dans ces assassinats des pilleurs et des brigands. Du jour au lendemain, voici l'homme ruiné. Ses biens sont pillés par les brigands. Ses ouvriers sont assassinés ou brûlés vifs. Et puis, on va tirer 10 cadavres des décombres. Ces 10 gosses. Ces 10 enfants, ces 10 enfants chéris, et quand on sait avec quel soin Job entourait et dirigeait sa famille, n'est-ce pas, comment ils allaient les uns chez les autres tour à tour, et puis comment après les jours de festin, Job appelait et sanctifier ses fils, il offrait pour chacun d'eux un holocauste en disant « Peut-être mes fils ont-ils péché, etc. » n'est-ce pas ? Des liens familiaux extrêmement étroits et manifestement un amour de ce patriarche pour les siens. Et nous dirions aujourd'hui que, voyez-vous, d'un instant à l'autre, ce sont 10 cercueils qui se sont alignés. Quelle souffrance ! Quelle souffrance ! Leur maison, donc, a été abattue par un cyclone, un ouragan, une tornade. Et puis donc, ensuite, nous résumons, il va être frappé d'une lèpre noire, purulente, une des formes les plus redoutables, la plus redoutée de l'Orient, avec des démangeaisons terribles, des boursouflures, etc. Les commentateurs sont assez partagés sur toutes les possibilités dans ce domaine, mais de toute manière, le tableau clinique qui se dégage des descriptions que Job fait lui-même de ses souffrances oriente vers quelque chose qui est absolument épouvantable et qui rend Job absolument méconnaissable. C'est ce qui va être le choc le plus terrible pour les compagnons. Ils vont avoir le souffle coupé en arrivant et en se disant, mais au fond d'eux, mais est-ce bien le Job que nous connaissons, n'est-ce pas? Tellement cet homme est meurtri, défiguré, déformé, purulent, et finalement même installé sur la décharge publique de sa cité, ce lieu de prédilection des chiens errants. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est sa chère épouse, sa meilleure moitié, qui se révolte, qui disjoncte. Ne soyons pas sévères. Souvenons-nous toujours d'une chose, c'est que quand on lit ces récits biographiques, je crois l'avoir dit déjà il y a 2 ans, en évoquant Barnabas, quand on lit ces récits, on a un avantage considérable sur les personnages bibliques. C'est qu'on a souvent toutes les solutions, on a toute la suite de l'histoire. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver dans la semaine qui vient. Voilà une sœur qui subitement se retrouve à l'hôpital. Et le fait d'avoir, nous, des éléments que ces personnages n'ont pas fait que nous sommes parfois, surtout avec notre marche avec Dieu, notre lecture des Écritures, les promesses qui y sont contenues, etc., nous sommes tentés d'être d'une grande sévérité. Et nous disons quand même, écoutez, moi je ne sais pas ce qu'il en serait avec mon épouse chérie si je me retrouvais subitement sur la décharge publique de Chevilly, dans un état absolument méconnaissable, d'une puanteur, parce que là aussi, c'était horrible. Écoutez, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de dire quand même, Tina Decker, elle n'est pas spirituelle. Vous savez, quand on souffre, on dit des choses que Dieu entend. Heureusement que les autres n'entendent pas tout ce qu'on dit à Dieu. Qu'on ait 5 ans de vie avec Christ ou qu'on en ait 50. Ce qui est merveilleux, c'est que nous avons un Dieu qui, lui, a la capacité de supporter tout ce que nous lui disons. Et c'est ce qui est aussi frappant dans le livre de Job. C'est qu'il n'y aura pas de reproche de la part de Dieu à Job pour avoir vidé son sac comme il l'a fait. Et Dieu ne va pas non plus remonter les bretelles de sa chérie. Parce qu'à un moment donné, elle a craqué. Parce qu'à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Mais pensez donc que c'était une maman. Une maman qui perd ses 10 enfants. Est-ce que nous réalisons un peu ce que c'est d'un coup, alors que nous l'avons vu, c'était une famille aisée qui avait réussi, etc., n'est-ce pas? Donc la chute était d'autant plus vertigineuse. Et puis cette souffrance subite quand ça vous arrive dessus en masse, n'est-ce pas, d'un coup. Alors elle va se révolter, et puis arrivent donc ses meilleurs amis. ses meilleurs amis qui viennent avec l'objectif de le consoler. Le texte le dit. Et dans, sur les lèvres desquelles il n'y aura pas un seul mot de consolation et d'encouragement. Je dis bien, cherchez un seul mot qui soit vraiment d'encouragement et de consolation de leur part. Vous n'en trouverez pas. Vous trouverez de beaux passages, des tirades absolument remarquables d'une théologie très très intéressante, au point que on peut effectivement, il m'est arrivé, d'utiliser des textes du livre de Job pour développer certains thèmes. Mais le problème, c'est que c'est trop absolu, que c'est incomplet, parce qu'il y a d'autres textes dans les Écritures qui sont là pour les compléter, et puis que c'est utilisé à tort et à travers, alors que ça ne concerne pas Job. Alors là aussi, à la fois... que nous ayons une capacité d'indignation face à de telles attitudes, c'est légitime, c'est sain. Le drame aujourd'hui, c'est que trop souvent, les croyants ont perdu leur capacité d'indignation. Il y a une telle banalisation des choses les plus horribles qu'on finit par perdre ce ressort qui nous pousse à dire « Ah non, ça, c'est pas juste, n'est-ce pas ?» Ça, c'est notre problème. Mais là aussi... Soyons prudents, parce que il nous est arrivé certainement plus d'une fois de leur ressembler dans tel ou tel de leurs réactions et de leurs tirades. Donc à la fois, soyons indignés, mais soyons alors autant indignés contre eux, qu'indignés contre nos propres attitudes. Là, nous serons justes de dire, Seigneur, dans cette histoire, j'ai le miroir de mes propres attitudes, trop facilement. J'ai vécu, mais vous l'avez sans doute vécu aussi, j'ai vécu aussi des moments dans lesquels j'aurais préféré que ceux qui voulaient me consoler le fassent autrement. C'était particulièrement douloureux à supporter. Voilà, donc nous avons fait le tour très très rapidement. Hein, incompréhension de ses meilleurs amis, mépris, insultes, solitude. Ah, la solitude de Job. Un homme entouré de quatre personne, puisqu'il y a le quatrième, le plus jeune, qui va assister la moutarde lui montant peu à peu au nez, bien qu'il soit plus jeune, à tous ces excès délirants de ces trois aînés. Il est là. Mais quelle solitude dans la vie de Job, malgré le fait qu'il est entouré de ses amis. Alors, souvenons-nous que nous avons 42 chapitres dans ce livre qui sont consacrés à cette situation, à la souffrance de Job sous de multiples formes, hein, se greffant sur, tout d'abord sur toute une série de catastrophes. 42 chapitres. Le livre de Job est le sixième livre de toute la Bible par sa longueur. Et si je le dis, c'est pour mieux souligner le message que Dieu veut nous envoyer. À savoir que, manifestement, dans notre vie ici-bas, la souffrance n'est pas chose secondaire. Même si les uns et les autres ne sont pas soumis aux mêmes situations, qu'il n'y a pas la même densité de souffrance, ça appartient aussi à la souveraineté de Dieu. Néanmoins, la souffrance occupe une grande place ici-bas. Et je serais tenté de dire qu'on a d'autant plus de difficultés à comprendre comment on peut écrire un certain nombre de livres évangéliques avec des équations très bizarres à ce sujet, alors que nous avons ne fût-ce que ce livre d'une telle richesse sur ce thème dans les Écritures. Avec cette particularité, je la tire d'un livre d'un homme qui a beaucoup souffert et qui a souligné quand même ceci. Le thème du livre de Job, c'est non pas « Pourquoi les justes souffrent-ils ?» mais « Pourquoi les justes servent-ils Dieu ?» La clé que nous avons entre les mains. Et ce qui est beau, bien entendu, c'est que finalement, Job a cessé de la lui réclamer, il était satisfait. Ce qui sous-entend bien que nous n'avons pas besoin d'avoir la solution à tous les mystères ici-bas pour être des êtres satisfaits en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous pouvons trimballer durant toute notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre auprès de lui, nous pouvons trimballer avec nous des mystères, des choses qui nous ont fait souffrir. Nous n'aurons pas un certain nombre de réponses, n'est-ce pas? Et c'est vrai que le grand thème, c'est pourquoi les justes servent-ils Dieu? Sous-entendu, pour servir Dieu dans ce type de situation, il faut vraiment que ça vaille le coup, n'est-ce pas? Servir Dieu de manière inconditionnelle, en passant par de telles souffrances, c'est vraiment qu'il vaut la peine d'aimer et de servir Dieu au-delà de toutes les contingences et souffrances et tout ce que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, ici-bas. Je trouve ça magnifique. Et j'ajoute simplement cette parole de Patrick Segal devant la souffrance. Il écrit ceci: pour parler à ceux qui souffrent, il faut savoir changer de langage, entrer sur la pointe des pieds. C'est si fragile, le royaume des larmes. C'est si fragile, le royaume des larmes. Alors, je suis en train de lire avec beaucoup d'intérêt, j'ai lu tous ces autres livres, le dernier sorti de Swindle, Job. Donc, ceux qui ne l'ont pas, je vous encourage, parce que la théologie de Swindle est solide, et elle est très pratique. C'est un homme d'expérience que Dieu a utilisé au fil des décennies pour soutenir bien des enfants. Il n'y a que depuis peu de temps que nous avons des ouvrages de Swindle en langue française et ils sont recommandables. Donc je crois que c'est la sixième, il me semble, des biographies de personnages bibliques qu'il analyse. Donc je vous encourage beaucoup. D'ailleurs, les autres livres de Swindle sont tout aussi remarquables, que ce soit sur la grâce et enfin, bref. Et Swindle écrit ceci: quand quelqu'un est dans le creuset, beaucoup de paroles sonnent creux. Et le terme creuset a la même racine que le mot croix, n'est-ce pas? La croix. Il écrit ailleurs: les gens qui souffrent attirent les beaux parleurs comme les accidents de la route attirent les vautours. Ah. Alors, faut-il le dire, ce genre de drame, rarement avec la même intensité, s'est souvent renouvelé depuis. Et c'est frappant de voir la somme impressionnante de souffrances dans le monde moderne, dans notre société. Que de drames, que de souffrances. Et je collectionne les définitions sur le terme « vie », la V-I-E. Alors c'est intéressant, un journal proposait les réponses suivantes. « La vie est une mauvaise nuit à passer dans une mauvaise auberge ». Une autre définition, c'est un oignon qu'on épluche en pleurant. Ou encore, la vie est un train express qui brûle les stations du bonheur et qui devient omnibus quand le malheur nous atteint. Quatrième définition, c'est Shakespeare. Vivre est une chanson dont mourir est le refrain. Ensuite, si la vie était écrite en musique, on n'y verrait que des soupirs. Les soupirs, pour ceux qui ne feraient pas de musique, étant des petits signes qui interviennent à un moment donné sur une portée, sur ces lignes, et qui nous font un tout petit peu soupirer. Il y en a même des demi, donc c'est intéressant. Vivre, écrit quelqu'un, c'est mourir en détail. Et Mark Twain, c'est ce célèbre humoriste américain, qui n'a pas vu une vie très intéressante et qui a mal fini, a écrit que la vie n'est qu'une succession d'embêtements. Vous voyez, tout ça, c'est le reflet, finalement, hein, de ce qui se dégage, finalement, dans bien des vies, quand ils font le tour de l'existence. On peut peut-être, à cause de ça, comprendre une des raisons de l'engouement pour le bouddhisme. Parce que le bouddhisme, précisément, tourne autour de cette idée de gestion de la question de la souffrance, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si je l'ai ici, oui, un extrait du célèbre sermon de Bénarès. Vous savez qu'on a, on a pratiquement rien comme écrit, hein, de Bouddha. Il y a toute une tradition orale, mais là encore, il y a sans doute à prendre et à laisser. Mais on a ce fameux sermon de Bénarès dans lequel il enseignait ceci. La naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la mort est douleur, l'union avec ce que nous haïssons est douleur, la séparation avec ce que nous aimons est douleur, ne pas obtenir tout ce que nous désirons est douleur, n'est-ce pas ? Et donc, à partir de là, Bouddha va mettre en action tout un système de pensée, d'attitude du corps et de l'esprit pour s'évader, finalement quitter l'esclavage de ses douleurs. C'est le nirvana, n'est-ce pas, quand on arrive à ce sommet, cette espèce de sommet paradisiaque où on est en plus complètement délivré du cycle des réincarnations, parce que ça c'est un des grands problèmes, hein. Je ne comprends pas pourquoi en Occident on est tellement intéressé par la réincarnation alors qu'en Orient elle a un sens tellement négatif. Voyez, délivrance de toutes ces réincarnations, avec tout ce qu'elles signifient aussi comme douleur qui s'ajoute à des situations antérieures, etc., etc. Voilà donc pour l'introduction à partir de l'histoire de Job, mais qui nous a déjà permis de faire quelques réflexions. Et quelqu'un le faisait remarquer, je crois que c'est dans sa prière tout à l'heure. Premièrement, donc, remarque préliminaire, personne ne traverse la vie sans souffrir d'une manière ou d'une autre. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Ça ne veut pas dire que l'homme naît dans le but de souffrir. Ça signifie tout simplement que c'est le lot inévitable de chacun d'entre nous ici-bas. C'est incontournable. Nous sommes tous concernés. Et je le redis d'une autre manière, les souffrances physiques, morales, spirituelles, de tous ordres, sont étroitement entrelacées. Et puis c'est là que je viens à ce que quelqu'un laissait entendre tout à l'heure. Deuxièmement, la souffrance des autres nous interpelle. Elle nous pose des questions. Nous pouvons être dans une période qui est agréable, où nous ne connaissons pas de turbulence. Mais tout cela est bien fragile. Il suffit que dans notre voiture, entre le lieu où nous habitons et ce lieu de culte ici à Darnay, nous croisions un accident, pour que, immédiatement, le trouble s'empare quelque part de nous, d'une manière ou d'une autre, à moins d'avoir, à cause d'une absorption dramatique de films d'horreur, etc., et je le dis volontairement, parce que ça c'est aussi un drame, à moins de nous être carapassonnés au point même que plus rien ne nous fait plus rien. N'est-ce pas? Ça, c'est un drame. Mais je dirais que simplement le fait de marcher avec Christ et donc de refuser à la fois une sensibilité exacerbée, une hypersensibilité qui est dangereuse, mais aussi cette dureté propre à notre civilisation, donc garder dans la présence de Dieu une sensibilité qui stimule notre compassion, n'est-ce pas, notre souffrance avec les autres, notre sympathie, ce qui veut dire exactement la même chose, inévitablement, la souffrance des autres provoque une souffrance en nous. Elle est angoissante, la souffrance des autres, elle est menaçante, elle est insécurisante. Et nous nous disons ici et là, « Oh, mais si la même chose m'arrivait, si la même chose m'arrivait. » Il y a d'ailleurs, dans Job 6, 21, une parole de Job qui va dans ce sens et qui l'adresse précisément à ses fameux avis. « Vous voyez ma terreur ou vous voyez mon malheur et vous avez peur. » C'est une bonne traduction. « Vous voyez ma terreur, vous voyez mon malheur et vous avez peur. » Vous avez peur. C'est Job 6, dans la deuxième partie du verset 21. Et je pense ici à l'aspect positif que cela peut avoir, à cette histoire vraie d'un jeune homme que Dieu poursuivait par le témoignage qui était donné par ses proches, sans doute par sa famille et d'autres, et qui débarque dans une ville. Et comme il avait du temps devant lui, quittant son hôtel, il va se promener, il entre dans un cimetière, parce que les cimetières sont toujours, moins peut-être maintenant, mais dans le passé beaucoup plus, riches d'enseignements. Les pierres tombales, ah, que de choses. Et là, en regardant les pierres tombales, subitement, il est cloué sur place. Parce qu'il découvre un nom qui est aussi le sien, mais un prénom qui est aussi le sien, et une date de naissance qui est aussi la sienne. Et il est absolument bouleversé, parce qu'immédiatement, il se dit, mais je pourrais être là. Il se précipite dans sa chambre d'hôtel. Et dans un ultime combat avec Dieu, il cède à l'action du Saint-Esprit et il se donne à Jésus-Christ. Et j'étais heureusement déjà à Jésus-Christ. Il m'avait déjà conquis. C'était dans une séance du Comité national de la Fédération évangélique de France, très exactement le 17 mars 1997, vous voyez, je l'ai noté, nous commencions notre séance de travail, c'était un lundi, je crois, et le président de la Fédération dit, écoutez, j'ai une nouvelle assez particulière à vous annoncer. Elle sort tout droit du Républicain Lorrain. Républicain Lorrain du 9 mars 1997, dans lequel je lis en nécrologie, c'est avec un immense chagrin que nous vous apprenons le décès de M. Maurice Decker. Et il se trouve que ce décès survenu à Metz, donc le dimanche 9 mars, après une courte maladie, moi je suis originaire de Moselle, hein, et j'ai même habité à proximité dans la banlieue de Metz pendant un certain temps, parce que maman était décédée et que une de ses, un des membres de la famille m'avait recueilli à cette époque, vous voyez. Donc c'était frappant, n'est-ce pas? Vous voyez, je n'invente rien, c'est vraiment un extrait du journal, hein, lui-même, le Républicain Lorrain. Mais enfin, j'étais déjà entre les mains du Seigneur depuis un certain nombre d'années. Troisièmement, la souffrance nous révolte. La souffrance nous révolte, elle amène nos pourquoi. Parce que souvent, nous ne comprenons pas son langage. Nous la trouvons souvent injuste, parfois très brutal, discriminatoire, implacable, arbitraire. Nous en avons des qualificatifs pour évoquer la souffrance. Ce serviteur de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant, mais qui a vécu de gros drames, dans sa vie, a écrit ceci. Ce ne sont pas les problèmes quotidiens qui transforment notre paradis en champ de bataille. Ce sont les agressions sournoises. Nous ne sommes tout simplement pas préparés au virage serré que la vie nous impose. Ces tournants inattendus sur la route. Au moment précis où nous commençons à contrôler notre existence, nos mains s'engourdissent et nos points d'exclamation s'arrondissent en points d'interrogation. L'inattendu et l'inexpliqué, voilà ce qui nous déséquilibre. Et si nous ne l'avons pas dit nous-mêmes, nous l'avons entendu plus d'une fois autour de nous, dans nos contacts, dans nos relations, si Dieu existait. Il ne permettrait pas que. Si Dieu est amour, alors pourquoi? Pourquoi tant de souffrance? Et là encore, il est facile de balayer tout cela du revers de la main. Mais disons-nous que nos contemporains sont tout à fait en droit de se poser cette question. Le tout, c'est de savoir si ils vont accepter, en tout cas, les éléments de réponse que Dieu veut leur apporter, n'est-ce pas? Mais la question en elle-même est légitime. Qu'on se pose ce type de question quand on ne connaît pas Dieu, ou quand on connaît un Dieu de l'imaginaire, ou de l'éducation religieuse de son enfance, du séminaire et je ne sais pas quoi encore, ou de la secte qu'on a fréquentée un certain temps, on peut le comprendre, n'est-ce pas? Mais qu'allons-nous faire quand Dieu, lui, va vouloir nous donner certaines réponses que nous nous jetions dans ses bras, que nous venions au pied de la croix? Nous avons dans le livre de Job un avertissement. Et il est pour tout un chacun ici-bas. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Elle vient de quelqu'un qui connaissait Dieu, mais ce que l'on pouvait connaître de la personne de Dieu, ce qu'il avait déjà révélé à cette époque, hein, qui n'est pas la nôtre, qui ne connaissait bien entendu pas Jésus-Christ, mais nous savons que si le Christ s'était présenté à lui, tel que nous le connaissons par les évangiles, il serait venu immédiatement à la croix. Nous ne pouvons pas en douter un seul instant, n'est-ce pas? Et il est au bénéfice, de manière rétroactive, du sacrifice salvateur de Jésus-Christ sur la croix. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. J'ai là deux réactions. C'est le rédacteur d'un livre, un auteur bien connu, aux États-Unis, qui rencontre un jeune homme prénommé Douglas, qui avait connu et connaissait encore beaucoup de souffrances dans sa vie. Et il l'interroge, « Pourriez-vous me parler de votre propre déception ?» Et après un long silence, Douglas lui dit, « Pour tout vous dire, Philippe, je n'ai pas été déçu par Dieu. J'ai appris d'abord par la maladie de ma femme, un cancer, puis surtout par l'accident, il fut happé par un chauffeur en état d'ébriété, à ne pas confondre Dieu et la vie. Je ne suis pas un stoïque qui serre les dents, n'est-ce pas? Montaigne, stoïcisme. Non, je ne suis pas un stoïque. Je me sens libre de maudire l'injustice de la vie et d'exprimer tout mon chagrin et toute ma colère. Mais je crois que Dieu éprouve la même chose au sujet de cet accident, qu'il est chagriné et en colère. Je ne lui en veux pas. L'existence de Dieu et même son amour pour moi ne dépendent pas de mon état de santé. Alors voilà une réponse. Et puis j'ai sous les yeux le courrier envoyé par un fils éploré à un serviteur de Dieu. Il lui écrit ceci. « Autrefois, je croyais en Dieu, mais quand il décida de laisser mourir ma mère dans un accident de la circulation, j'ai tiré la conclusion qu'un tel Dieu n'était pas digne de ma confiance, au point que je suis devenu athée, et je pense que des milliers de gens ont fait la même expérience. » Vous voyez, deux personnes confrontées avec des drames, et qui vont vivre des réactions totalement différentes, voire même opposées. Et dans nos voyages outre-mer, j'ai souvent beaucoup apprécié certaines dimensions de nos découvertes en Afrique. Et je pense notamment à certaines inscriptions qui se retrouvent sur les taxibrousses dans certains pays africains. Et j'avais relevé une fois cette grande inscription sur le devant de ce taxibrousse. La souffrance est un conseil. La souffrance est un conseil. C'est certainement ce que une grande partie de notre Europe occidentale, pour ne parler que d'elle, est en train de vouloir absolument ignorer. Toute la richesse qui se cache derrière ce qu'on appelle la souffrance. Ça, c'est le drame de notre temps, c'est la quatrième remarque. Le drame de notre temps, c'est l'ignorance des significations possibles de la souffrance. Elle est trop systématiquement considérée comme une ennemie, comme une intruse. Il faut y échapper à tout prix. Alors, là aussi, j'ai sélectionné un texte intéressant qui pourrait être retouché, mais je ne le fais pas. On se demande ce qu'il adviendra d'une société où l'on esquive gratuitement certaines formes de la souffrance. Je veux parler d'une société où le mariage, qui est ressenti comme insupportable, se résout vite et s'en heurte en divorce. Là, je mettrai des nuances. Mais disons que c'est vrai qu'on assiste à une évolution régressive dans le divorce qui est déjà un drame, à savoir qu'on s'arrange de plus en plus